Welcome to the show. Six and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best.
Bringing you the best
in hip hop.
DJ, turn it up.
Oh, yeah.
Hello, hello. Hello à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Six and Daz, le hip-hop show de qualité.
Cinquième
déjà, comme le temps passe. Oh non, le sixième, parce qu'on compte aussi le zéro.
C'est vrai, c'est vrai.
C'était d'ailleurs un épisode zéro pour un artiste zéro.
Hein, donc ça veut dire que. N'écoutez pas ce vil personnage.
Ça veut dire qu'à Six and Daz, peut-être pour l'épisode 3 753 000, on va parler d'artistes, mais ultra giga platine. Quelque chose comme ça. En tout cas, merci de nous rejoindre sur la fréquence. Ça fait genre.
Oh le Six and Daz.
On va, je pense, continuer dans la lancée. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, qui était pourtant, tel Tim Cook et Apple le disent, le meilleur épisode jamais enregistré.
L'épisode de la révolution.
De l'histoire humaine entière de Qualitaire. C'était le meilleur Six and Daz ever. Et là, je pense qu'on va sortir le meilleur Six and Daz ever. Mais d'abord, avant de présenter l'artiste, est-ce qu'on se mettrait pas un petit refresh,
ah, vas-y.
Et Mob Deep. Hein. Ah, une petite voix fluette.
Ah.
Oh, dis donc.
Ouh.
Mais je la reconnais.
C'est la petite.
Ah là 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 là, la seule, la vraie et l'unique Kim qui existe.
C'est vrai.
On va arrêter avec la fraude là de Kanye West, tout ça là. La seule vraie Kim, c'est la petite Kim.
C'est vrai.
C'est Lil Kim, qui est également la seule, la vraie Queen B.
L'original
Queen B. C'est-à-dire que cette meuf là, c'est la Kim originale et c'est la Queen B originale. Ouais, donc avant Kardashian et avant Beyoncé.
Ouais, badale,
incroyable.
Respect, ouais.
Donc si vous avez pas compris, on va parler aujourd'hui de Lil Kim.
Eh oui. Little Kim, Kimberley donc.
Oui. Classique jusque-là.
Jusque-là. Ouais. Kimberley Denise.
Ouais, très classique, Jones.
Alors, un peu plus ancienne, elle est née en 74.
Ouais, plus ancienne. Bah, 74, excuse-moi, mais c'est la même année de naissance que Avoc et Prodigy.
Ouais, c'est vrai.
Donc on reste. Vous avez vu quand même, les transitions sont de qualité professionnelle. J'ai envie de dire, cette émission, il y a quand même quelque chose qui se passe.
On monte en gamme.
Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est vraiment notre best show ever.
On mérite 6 étoiles, là, je pense.
Incroyable. Alors, donc, oui.
Alors, on va faire un petit point d'as, tu vois. Et contrairement aux autres, celle-ci, elle va être élevée par son père.
Bah, excuse-moi, mais ça aussi, c'est un peu comme Albert Johnson,
c'est vrai,
alias Prodigy.
C'est vrai.
Donc on s'arrange même au niveau de l'histoire familiale des gens pour que ça soit un peu cohérent.
Mais on va chercher, on fait des petites flèches, des petits rapprochements, on essaie de voir qui on veut sélectionner, et puis bon, ça tombe bien.
Donc élevé par son père, oui.
Ouais, élevé par son père, donc on va déjà dire qu'elle vient de Brooklyn, c'est important.
De où à Brooklyn exactement?
Elle vient de Bedford.
Bedford-Stuyvesant, voilà. Bed-Stuy, comme voilà. On dit.
Exactement. Donc elle vient de Bedford, Brooklyn, un quartier résidentiel, somme toute classique.
Ouais, enfin en 96, j'imagine que ça dealait en bas des bâtiments quand même.
Ouais, mais t'es facilement fourni en diverses. en diverses choses, quoi. Certains vont dans un traiteur italien.
Disons que t'as du pecorino qui se sniffe, quoi. Ok.
Et voilà. Mais bon, elle aurait une relation difficile avec son père.
D'accord.
Malheureusement, qui est.
Alors je note quand même que c'est quand même des parents séparés.
C'est des parents séparés.
C'est un point d'as.
On reste quand même. Voilà, il faut quand même qu'il y ait la difficulté.
D'accord.
On reste dans une enfance difficile. Son père est un ancien Marines. Donc l'éducation est très très difficile. Et puis elle est jeune, elle est un peu fugueuse. Elle aura une relation donc difficile avec son père. Et puis elle va se retrouver à la rue à 16 ans, littéralement à la rue. Donc elle va vivre.
Les histoires de street pour le vrai, elle s'est retrouvée dedans.
Elle s'est retrouvée dedans. Et elle va commencer à freestyler et à impressionner les gens. Et c'est une époque où justement le rap de freestyle est envoyé toutes les VHS et tout ça, ça tournait quoi. Et dont le freestyle de rue le plus connu, c'est celui de
Notorious B.I.G. Exactement,
tout le monde
l'a en tête,
celui-ci, le fameux freestyle où il est.
Il est justement à Bed-Stuy, pas loin de là où il deal, d'ailleurs, à l'endroit où il deal, je crois.
Oui, il pourrait se déplacer.
Devant la Bodega,
bien sûr.
Non, franchement, c'est un très beau freestyle qui est disponible sur YouTube.
Ah oui, c'est un classique. Donc, c'est vraiment une époque comme ça où les rappeurs freestylaient dans la rue, c'était la chose, quoi.
C'était la chose.
Voilà.
Donc ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 94 ou 95. 94.
Donc, Biggie Smalls repère
Il repère la petite. Et lui propose de rentrer dans le groupe, le fameux groupe Junior Mafia.
Ah.
Alors, Junior Mafia avec Lil Seize.
Lil Seize et tous les autres, là, je sais plus comment ils s'appellent.
Je sais plus. Pas moi non plus.
On n'a pas fait notre devoir là-dessus. Ouais, alors, moi, j'aimais bien Junior Mafia.
Jeu concours, on lance un jeu concours.
Comment s'appelaient les autres MC du groupe Junior Mafia? Alors, Mafia, évidemment, parce qu'on est quand même en 1994 et il faut des putains d'acronymes.
Ah ouais, grave, c'est les beaux.
Donc, Mafia, ça pourrait vouloir dire Mafia, mais c'était trop simple. Non, eh Mafia, oui. Ça veut dire quoi, Six?
Ça veut dire Masters at Finding. At Finding ou Finding?
Finding.
Intelligent Attitude.
Alors Mafia
at Finding, Intelligent Attitude.
Les maîtres pour trouver des attitudes intelligentes.
Ouais.
Alors qu'ils auraient pu s'appeler Master at Finding Intelligent Acronyms. Parce que ça marchait
vrai,
aussi.
Ils aiment bien Attitude, hein, j'ai remarqué, ça revient souvent, ça. Hein.
Ouais. Ouais, ouais, mais on l'a jamais bien traduit. Parce que je viens de dire Attitude, en fait, c'est pas ça, c'est plus tempérament. Non
ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un faux
parce que,
ça.
Par exemple, NWA, ouais. Niggas with Attitudes.
C'est
plus les Renois énervés.
C'est le tempérament, quoi.
Ouais, ouais, les Renois énervés, ouais, quoi. Les Renois qui se rendent pas compte.
Ouais, exactement.
Ok, donc, il la détecte.
Il la détecte et directement, il, a, ouais, t'imagines,
il l'intègre au collectif.
C'est-à-dire qu'il n'a jamais, jamais posé en studio, rien du tout avant. Hein. Il l'intègre directement dans le groupe. Et en 95, donc il va sortir son groupe Conspiracy.
Enfin, l'album.
L'album, bien sûr, l'album de Junior Mafia Conspiracy. Qui va suivre. S'il faut remettre dans le contexte, on va en parler un petit peu vite fait, même si c'était pas un spécial de Biggie. C'est que Biggie, à l'époque, il vient de sortir son premier album, Ready to Die.
Ready to
et
die.
Ça a été une claque. Ça a été une claque. Il a été encensé.
Le début du retour. Enfin, c'était dans la continuité de reprendre le flambeau à la côte ouest.
Il a contribué, quoi.
Donc lui, Mobb Deep et le Wu-Tang, c'était un truc qui. Voilà. Ouais. Donc effectivement, là, il la sort sur le premier morceau de Junior Mafia qui
exactement.
Est Players Anthem. And Cadillacs, now I pimp gats in the axe. Watch my niggas back. Nines in the store, Glocks in the bag. Max and Mini Marcus getting money with the A-Rabs. No question, confession. Ah là là.
C'était bon, ça. Hein.
Franchement,
bon,
ce morceau, je le kiffais. Ouais. Le clip, il puait la merde.
Ouais, ouais.
Mais putain, elle rappe trop bien.
Elle rappe bien. Franchement,
elle rappe trop bien.
Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Lil Kim, pour moi, c'est une surperformeuse. C'est une rappeuse. Elle a pas du tout démérité. Aujourd'hui, on peut reprocher à certaines rappeuses d'être un peu là pour. Elle coche toutes les cases, quoi. Ouais. La femme qui se déshabille, qui est un peu sexy.
On
va en parler. Mais Lil Kim, avant tout, c'est une kickeuse.
Ouais,
c'est une vraie kickeuse.
Ça kickait fort.
C'est-à-dire, elle avait rien à envier au mec. Elle kickait, elle pouvait regarder tout le monde dans les yeux. Elle était vraiment super
franchement,
forte.
Franchement, c'était un putain de MC. Ouais. Et du coup, bon, alors ça, c'est Players Anthem qui était
la mise en bouche.
Voilà, le single.
Belle mise en bouche, voilà. Et après, par contre, ils vont sortir le gros single. Get money. Better grab a seat, grab on your dick as this bitch get deep. Deeper than a pussy of a good 6 feet. Stiff dicks feel sweet in this little boutique. Young bitch from the street, guaranteed to stay down. Used to bring work out of town on Greyhound. Now I'm billboard bound. Alors, moi je me demandais, en entendant ça quand même, parce que, ok, la meuf a du flow. Ce flow-là, là. Qu'on entend là. Ah, mais oui, c'est beau, tu
moi, j'entends Biggie là, en fait.
Ouais, bien sûr.
Donc, est-ce qu'il ghostwritait, oui ou merde? Parce que le delivery là, franchement, c'est Biggie.
On pourrait le croire. Et tout le monde dit, de toute façon, sur l'album Junior Mafia, il l'a pris, il l'a drivé complètement. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas poser en studio.
Ouais.
Elle l'avait jamais posé en studio, donc certainement qu'il a dû la ghost.
La ghostwriter, voilà, ou en tout cas lui dire un flow, c'est ça.
Parce
ou...
que c'est clair qu'elle n'est pas arrivée en studio avec un flow comme ça, c'est clair.
Ouais.
Et c'est un flow Biggie. Fais ça, tu vois.
Autant sur Players Anthem, tu vois.
Voilà.
Bon, mais sur Get Money, c'est.
Pas du tout. Non, mais c'est sûr et certain. Elle était toute fraîche, hein. Elle avait 20 ans.
Ouais, 20 ans.
Ouais. 20 ans. Donc, le premier recording en studio. En plus, bon, ouais, c'est pas des petits studios, tu vois. C'est.
Ah ouais, à l'époque, il y avait de la tunasse, hein. Je peux te dire.
Ah oui.
Ah, je peux te dire, c'était pas des home studios à la con,
et
hein.
Et puis, c'est Puffy derrière, hein. Donc, lui aussi doit être là. Puffy doit aussi diriger tout ça. Non, c'est sûr et certain que là, elle doit être. Ben, ça se sent. C'est Biggie derrière, et puis certainement Puffy qui guide et qui lui dit vas-y, fais comme ça.
De toute façon, on entend aussi, notamment sur le deuxième, sur Get Money, les. les beats, tu vois, avec un tempo vachement lent,
bien sûr.
Ultra gros, riche, voilà. Tu vois,
c'est rond,
c'est super rond, c'est voilà, ultra c'est rond. Donc perso, moi, c'est tout ce que je déteste. Mais non, je plaisante. Au moins, on n'est pas dans un flipper ou dans un baby foot ou dans un pachinko.
Pas encore, pas encore.
Pas encore. En tout cas, c'était le premier album de Junior Mafia, ouais. Un groupe qui finalement, sans me tromper, hein, je crois qu'ils ont été frappés par la malédiction des groupes de rap, ouais, à part les Rough Riders, bien sûr.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de deuxième
non,
album.
Bah, déjà, ils ont perdu quand même un membre éminent.
Oui, non, mais bon, d'accord, mais on s'en remet toujours.
Oui, mais bon, Lil Sizz, Lil Kim, je pense pas que ça aurait.
Ouais, ça suffisait
et
pas.
Bien sûr, on rappelle le jeu concours. Les autres membres du groupe, à vous de nous dire.
Non, ouais, c'est vrai que sans Biggie Small, c'était peut-être un peu compliqué, voilà. Vu que c'était son groupe, mais bon. Ouais.
C'était pas, en plus, c'est pas un album qui est ouf. Franchement, si le single a tout sauvé, mais c'est un album qui est.
Ouais, c'est un album qui était dans ce que j'appelle, moi, le.
Le ventre mou, quoi.
Ouais, les pages du milieu de The Source.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est pas la couve.
Ouais. Mais sauvé
c'est
par...
pas non plus les trucs indés. Tout au bout là.
Mais sauvé par l'argent de Bad Boy quoi.
Ouais bah oui. Donc, ah ouais, non mais c'est vrai qu'en face, faut rappeler que par rapport à Junior Mafia comme collectif, en face t'avais le Wu, t'avais de l'autre côté t'avais le Dog Pound qui était avec le vent le vent en poupe un truc de ouf. Donc c'est vrai que c'était un peu dur aussi pour un petit groupe d'exister. Mais quand même ces deux singles là sont.
Non ils sont bien ouais franchement ils ont bien performé y a rien à dire ça a surtout permis. Donc bah Kimberly de dénicher un deal et elle va signer chez Atlantic Records. Voilà.
Pas de Columbia dans cette histoire. Non.
Spoiler, Columbia ne veut pas intervenir dans cet
incroyable,
épisode.
Incroyable.
Okay, et donc ouais, elle va signer chez Atlantic. Elle va signer chez Atlantic et elle va sortir son premier album. Ce truc s'appelle Hardcore avec ce titre.
Ah putain, il est parfait. It's cool, not trying to put a rush on you. I had to let you know that I got a crush on you. Hey yo, shorty, won't you go get a bag of the lethal? I'll be undressed in the bra all see-through. While you count your jewels, thinking I'ma cheat you. The only one thing I wanna do is freak you. Évidemment, cet instru pour les fans de hip-hop résonne très différemment parce que évidemment c'est le morceau de Lil Kim, mais moi c'est surtout l'instru sur laquelle les X-Men ont kické en français et c'était incroyable avec Pete Bacardi aussi, c'était Taemin, c'était enfin bon bref, c'est pas le sujet. Mais Crush on You. Très très bon.
Qui fait d'ailleurs qui sonne très très Junior Mafia.
C'est vraiment.
On l'a vu là, le morceau là, après avoir joué les morceaux de l'album Conspiracy. Bon, il aurait pu être dans l'album Conspiracy complètement.
Bah, moi, je le trouve quand même un cran au-dessus en termes de.
Ah, oui, bien sûr.
De production value, tu vois.
Je trouve que. Mais ça reste dans l'esprit, on est encore dans la rondeur.
Dans la rondeur, le tempo à la cool.
Et en parlant de rondeur, Lil Kim. Eh oui.
Alors attention, on est en 2019.
Oui.
Comme je sens que cette émission risque.
Parce que, et là, je parle en son nom.
Ah.
C'est qu'elle se défend.
Ah.
Elle,
ok.
Elle en fait la promotion des rondeurs.
Ah
parce
oui.
Que elle, c'est son cheval de bataille. Pour elle, c'est le corps. C'est le discours d'aujourd'hui.
Évidemment.
Corps, c'est un moyen, c'est un outil qu'elle a le droit de montrer.
J'ai évidemment la pochette de l'album.
C'est My Body, My Choice, aujourd'hui, on dirait, tu vois. Ouais. Elle était complètement
à l'initiative. Ce rondeur, c'est son cheval de bataille. Mmh. Sur la pochette, son cheval de bataille, c'est plutôt une peau d'ours blanc. Parce que la pochette est assez super cheesy.
On pourrait dire que c'est son ours de bataille, quoi.
Ouais, on dirait, en gros, c'est un truc qui ressemble un peu à un visuel qu'on imagine dans Les Feux de l'amour.
Ouais, c'est vrai, complètement.
Mais
ouais.
Un peu glamour. Donc, Les Feux de glamour.
Ouais, c'est vrai.
Avec,
c'est vrai.
Évidemment, Kim avec une position plutôt, ouais. Une position plutôt aguicheuse, on va dire. Mais son corps, son choix. Je veux dire, en 2019,
c'est ça.
Tous woke autour de cette table, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que cet album, qui déjà s'appelle Hardcore, il annonce relativement la couleur, c'était une première dans le monde du hip-hop.
Ah mais complètement, c'est ce qu'on va appeler le gangsta porn rap.
Carrément.
Ah ouais, complètement. Tu vois, ça va vraiment même bousculer les politiciens et les politiques aux États-Unis, où il va y avoir des rassemblements dans le Congrès, des gens qui vont s'élever contre ça.
À l'époque, les politiciens, notamment avec Dolores Tucker et tous les casse-couilles, qui nous ont déjà emmerdés sur la côte ouest. Hein, alors que voilà, t'as des mecs, ils arrivent, ils font des albums genre Cop Killer. Ok, bah ça va, tu vois. Ok, Kill Whitey. Ouais, bon, bah ok. Et là, tout de suite, ça se dit pas.
C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de femmes, notamment des femmes noires, qui vont s'élever contre ça.
Ouais.
Qui vont porter la voix, qui vont dire
que ça dévoie l'image justement de la femme noire.
Mmh, ouais. Alors que elle, au contraire, elle se dit non, moi c'est moi je vois pas pourquoi les mecs ils ont le droit de dire viens me sucer, que moi j'ai pas le droit de dire viens me sucer quoi. Elle était comme ça, elle était cash comme ça.
C'est vrai que à la même époque, pour briller en tant que MC féminin, fallait être en fait un tomboy, un garçon
manqué.
Ouais,
c'est manqué. Ça, exactement.
Tu prends MC Light,
mais complètement.
Queen Latifah,
Lady
tu prends
of
même
Rage,
Rage pour chez Defro, mais même Dabrat,
ouais, bien sûr,
qui est sorti en 94 aussi, Funk the Fight.
Ça, ouais.
Tu vois Dabrat sur la pochette, t'as l'impression que c'est Snoop.
Ah, ouais, enfin, ouais,
donc les chemises Pendleton, les khakis et tout, tu te dis, ouais, bon, là c'est vrai que Kim, c'est la première.
Elle a joué
en disant, bah moi je suis une meuf.
La féminité à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, en gros.
Elle a un trait extrême.
Elle considère que voilà, les bitches, c'est les mecs. Et elle, le mec, c'est voilà.
Donc elle retourne, elle retourne le cliché.
Alors, elle retourne le cliché.
Moi, si vous écoutez Californie, car je fais de la publicité pour tous les podcasts, c'est un grand univers.
Tous les 15 jours.
Dans le qualité podcast univers, le KPU. On avait vu un groupe aussi qui s'appelait Ménage à Toi, qui était produit par... Ménage à Toi. Qui était produit par Eazy-E, et c'était la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu regardes le truc, tu fais, ok, c'est de l'empowerment. Genre, la meuf, elle assume sa sexualité, ok. Mais pourquoi avoir besoin pour assumer ta sexualité de retourner les codes que les mecs font pour faire la même chose en tant que meuf? C'est un peu débile. C'est pour ça que, ok.
Enfin, bon, on est en 95, hein. 95, il y a 20 ans, quoi. C'est encore
96,
chose,
mon gars.
96, exactement.
Bon. Donc, on est, il y a 23 ans.
Ouais.
Bon, ok.
Donc, c'est un peu différent, hein.
Mais bon, en 96, on avait des téléphones portables, hein. Donc, ils étaient gros, mais ils étaient là.
Ouais.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois loin et pas si loin que ça.
Oui, oui, oui.
Et en fait, au lieu d'avoir une sexualité assumée, mais pas expansive, comme tout le monde en fait a
bien
le
sûr,
droit de l'avoir.
Complètement.
Là en fait elle en surjoue et donc elle joue le côté bah, les mecs disent qu'ils vont baiser des meufs, alors moi je dis que je vais baiser des putes aussi. Voilà,
y a pas de...
Et en fait ok c'est cool, tu le fais, tu vois, mais je pense que
c'était un créneau aussi à prendre.
Il y avait là-dedans, dans ce créneau-là, je pense qu'au niveau de l'intention il y avait 50% Kim.
Bien sûr.
Et peut-être 50% Biggie.
Et bien sûr.
Et lui a dit, tu vois, enfin, ouais, moi, faut que tu joues le rôle de la bad bitch, machin, etc.
Ouais, mais complètement. Mais c'est sûr et certain que c'est pas elle, tu sais, elle vient en venant de là,
ouais,
tu sais, qui va se dire.
En venant de Brooklyn, qui dit, tiens, je vais foutre des trucs en satin à moitié transparent.
Et puis. Sur une peau d'ours.
Ouais. Voilà, non, mais on est d'accord, je veux dire.
Sûr,
même si c'est
sûr.
Un choix qui semble volontaire, je pense quand même qu'elle a été téléguidée.
Bien sûr, complètement. Et on peut d'ailleurs citer un morceau, tiens, en parlant de femmes. Un autre morceau.
Ah bah, oui. Alors, qui est-ce qui a produit cette connerie? Cette connerie, je plaisante, bien sûr, c'est Not Tonight, le morceau. C'est le remix, donc en plus avec tout ce que justement
ce qu'on
le hip-hop féminin comprenait. Donc il y a Dabrat, Left Eye de TLC, Repose en paix, Missy Elliott et Angie Martinez.
Angie Martinez a fait son petit couplet.
La meuf de la radio.
Ouais, c'est ça, exactement.
La meuf de la radio.
C'est comme si aujourd'hui on avait.
Le mec de Fred, de Sky.
Qui fait son petit couplet au début. Mais elle fait un petit couplet, hein. Elle fait son petit couplet.
Voilà,
Angie,
normal.
Ouais, c'est.
Bon, alors on va pas se mentir. Le mec, il est parti, le producteur. Donc c'est quoi? C'est Ringo?
Ouais. Ouais, c'est ça.
Rashad Ringo Smith. Bon. Il est parti quand même dans le bac sample grillé. Il a cherché pendant à peu près une seconde. Il a fait ah bah tiens ça on va le prendre. Bon,
ouais,
c'est
bah,
un peu facile.
Ah bien sûr c'est facile.
C'est ce que je reprocherais moi à l'équipe Bad Boy, c'est qu'en général
c'est facile. Mais parce qu'ils considèrent qu'en fait un tube des années 60-70 est un tube dans les années 2000. Quoi. Et qu'il suffit juste de remettre un peu au goût du jour, changer les caisses.
Oui c'est vrai.
C'est ça Puffy, c'est sa spécialité.
Oui. Est-ce que c'était une bonne spécialité? C'est une question que je me pose.
D'ailleurs, c'est une spécialité qui va bien, qui va d'ailleurs
bien rapporter,
bien rincer avec son album, parce qu'il va sortir juste derrière lui le No Way Out.
Alors attends, parce que déjà, cet album-là, ouais. Attends, on n'avait même pas dit du Journal Mafia combien ils avaient vendu.
Ah, c'est vrai qu'on a nos petits points chiffres.
Un petit point chiffre.
Un petit jingle, le chiffre et des lettres.
Donc, Junior Mafia, Conspiracy, il a vendu
1 million.
Ce qui est correct. Chez Columbia, qui fait drop.
Je pense qu'ils étaient déçus.
Ah ouais?
Bah, je pense qu'après Biggie, qui a dû vendre, je sais pas, 7 millions.
Attends, remettons les choses en contexte. Ok, il y a Biggie dans le groupe, mais tous les autres, c'est des inconnus. Ça fait comme T.I. et son groupe PSC, là.
Mais les singles sont forts. Je pense 1 million. Bah, moi, de mon point de vue perso,
ouais,
ça a
million,
aussi joué au fait que Julien Maffei a présenté dû dire stop aussi.
Ouais.
Même s'il y a eu la mort de Biggie. 1 million, je pense que c'est pas rentable.
C'est-à-dire que 1 million de ventes pour un truc où le premier clip, il y a un jet privé, tu te dis.
Tu vois, ton million, il est.
Ouais, les gars.
Je pense que c'est pas rentable. Et que, je pense qu'un million, comme je te disais, aux États-Unis, il y a souvent un gros budget d'album. C'est 1 million, à partir d'1 million que t'es rentable. Et c'est pour ça que souvent ce chiffre-là est où il est atteint, où il est pas atteint, et qui permet de replonger, enfin, de re. De rebanquer derrière, tu vois, voilà, ouais. Exactement. C'est parce que on calcule là-dessus. En fait, les calculs, ils sont simples. Hein. En France, on calcule à peu près sur 50 000 ou 20 000 pour un nouveau, MC. Alors, les chiffres sont simples. Tu fais 20 000 fois 5, ça fait donc 100 000.
Ouais.
Vous me dites, hein.
Jusque-là, on suit le.
C'est simple. Les chiffres, c'est 100 000. On a 100 000 de budget. C'est-à-dire, on va mettre 20 000 en recording, 50 000 en pub.
Mais pourquoi fois 5? Pourquoi pas fois 6?
Fois 5, c'est parce que c'est ce qu'on gagne, en fait. Quand tu sors un CD, la maison de disque gagne 5 euros.
Ah, donc là, c'est un point business, carrément. Ah, oui. On n'est plus dans un point chiffre. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu
5 euros, c'est ce que gagne une maison de disque sur un CD. En bac.
D'accord. Sur un CD à 12 balles.
Voilà. Bah, 12 balles, la Fnac, on va dire Fnac ou autre, hein, prend 2.
Ouais.
Il reste 10.
Ouais.
Et la maison 10 prend 5. L'artiste, souvent, il prend 2.
Et les 3 qui restent.
Et les 3 qui restent, ils sont souvent dispersés à droite, à gauche.
D'accord. Donc, en tant qu'artiste, tu te fais quand même bien douillax.
Bah, tu te fais douillax après.
Ah, tu te fais douillax, hein, on va
tu
pas.
Tu te fais douillax, mais c'est un deal classique. 18-20%, c'est le deal classique d'un artiste.
D'accord.
C'est, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on calcule, en fait. Tu vois, et aux États-Unis, c'est la même chose. C'est, 1 million, ça veut dire qu'on a 5 millions de budget pour un album. C'est-à-dire qu'on doit, entre le.
5 millions pour un album,
tu sais. Ça va vite, parce qu'à l'époque.
Ah oui, il y a toujours ces putains d'avances, là.
Donc, et puis surtout, comme tu l'as dit, les clips. Ouais. Les clips, c'est des mini-films. Ouais, c'est tu vrai. Vois. Et ça montait, c'est des crescendo. Ah, lui, il a sorti un jet. Vas-y, sors boîte de jet. Tu sais, c'était la.
Ah, lui, il avait pas allumé le moteur, surtout, mais nous, on va le faire.
Et surtout Puffy, quoi.
Ouais, en plus, ouais.
T'as rien que lui.
Bah, le problème en fait c'est ça, bah, c'est que les budgets ils montent de manière exponentielle, mais en même temps t'as l'exec qui est complètement bling bling, tu vois, avec des Nabucco de
il arrive en jet. Non, il arrive en jet pour se tomber dans son yacht, qui va le mettre dans sa voiture. Il est jamais à pied. Il est jamais à pied en fait.
C'est ouais, alors, donc Junior Mafia, ouais. Ils font 1 million, ouais. Et du coup là Kim avec Hardcore.
Elle a bien performé. Elle va faire 2 millions aux US et 5 millions worldwide.
Et oui, car attention aux nouveautés de Six and Daz. On essaie de trouver les chiffres world pour mettre en perspective.
Bien sûr, en perspective pour bien vous montrer l'impact. Parce que, on en discutait juste avant l'émission, c'est vrai que Lil Kim, on connaît Lil Kim.
Tout le monde a entendu parler de Lil personnage. Kim.
Mais tu sais pas
ce qu'elle a chanté.
Ouais, ouais. Tu sais pas ce qu'elle a chanté. Et puis surtout l'impact qu'elle a eu. C'est la first MC à cartonner à un niveau comme ça. C'est vraiment.
C'est la première pop star hip-hop.
Ouais, complètement.
Hip-hop star, ouais. Du coup.
Mmh. Vraiment,
féminine.
Ouais. Mmh. C'est vrai, hein. Complètement. Elle va faire des chiffres. À chaque fois, tout ce qu'elle va faire comme chiffre, ça va être la première fois. Là, ça va être le meilleur début pour un album féminin. Elle va vraiment après.
C'est-à-dire plus que les Salt and Peppa, plus que MC Light.
Elle va
Latifa.
Faire une première semaine, elle va faire genre 200 000, 11e au Billboard. Personne n'avait fait avant. C'est elle qui va le plus performer.
Incroyable. Ouais. Et ça, est-ce que vous le saviez, chers auditeurs? Non, vous ne le saviez pas. Non, car même moi, je ne le savais pas.
Eh oui. Eh ben, j'avoue, moi non plus. Mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on redécouvre des artistes. On entend parler Lil Kim. Ah oui, Lil Kim, je connais. Ah oui.
Ouais,
le
tu
morceau.
Connais, ouais, tu connais
Aguilera,
le personnage.
Tout ça, voilà.
C'est comme Mickey. Tu connais le perso.
Et quand tu plonges dans le truc, tu dis ah oui, d'accord. Il y a une raison pour ça, tu vois.
Et donc là, ça veut dire que Atlantique 95, ils sortent Junior Mafia. Ouais. 96, ils sortent Hardcore.
Pour
ils disent bon, il y a quelque chose, il faut battre le fer. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils sortent après?
Bah, en parallèle, d'ailleurs, comme on disait, il y a l'album de Puffy aussi. Il y a un album qui va
bah
cartonner,
oui.
Qui va faire 10-15 millions en worldwide. Voilà. Ou elle va acheter ce petit couplet.
Une intro de 6 heures.
Il est l'heure de se réveiller. Now, what y'all wanna do? Wanna be ballers, shot callers, brawlers. We'll be dipping in the Benz with the spoilers. On the low from the Jake and the Taurus. Trying to get my hands on some grants like Horace.
Donc là, l'album s'appelait No Way Out. Et le morceau, c'est évidemment It's All About the Benjamins. Ça veut pas dire qu'on parle des gens qui s'appellent Benjamin. On parle de Benjamin Franklin qui est imprimé sur les billets de $100.
Exactement. Et cet album, il est intéressant parce que c'est Puff Daddy and the Family.
Et ça, c'est, je pense, à mon sens, une des plus grosses catastrophes jamais arrivées au monde du rap. C'est le moment où ces putains de producteurs exécutifs ont décidé que mais j'aimerais bien chanter. Oh, putain. Et... Alors que Puffy, respect, tu vois.
Bien sûr. Bah,
mais t'es pas un rappeur, mec.
Non, c'est
arrête.
Pas un rappeur. C'est un entertainer, mais je pense que c'est une question de c'est du business. Lui, s'est dit sur mon nom, je peux, ouais, en faisant des gimmicks.
Enfin, sur mon nom, il y a toujours Biggie, qui, tu vois. Et là, littéralement, bien je veux sûr. Dire, je retourne l'album de Puff Daddy and the Family.
Bien sûr.
Bon, ben, à l'arrière, t'as Puff Daddy, certes, mais il y a Biggie qui est juste à côté, debout, en train de tenir le fauteuil.
Dans Rory, if I write rhymes, I write checks.
Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, vous inquiétez
lui,
pas.
C'est pas si grave.
J'écris pas des rimes, mais j'écris des chèques.
Voilà.
Mais il n'empêche qu'on remémore aussi ce qui s'était passé aux Source Awards, en 95 ou 96.
Il va falloir qu'on trouve la date, je
avec justement Suge Knight, donc le producteur exécutif de Death Row, qui était à New York et qui était monté sur scène habillé tout en rouge comme les Bloods, pour prendre le micro et dire que si des artistes veulent rester la star et ne pas avoir des producteurs exécutifs dans toutes les vidéos,
voilà,
sur tous les morceaux qui font les clowns derrière, signez chez nous.
Avec un gros plan sur Puffy à ce moment-là.
Come to Death Row, donc venez chez Death Row, sous-entendu, plutôt que chez Bad Boy Records, parce que c'est vrai. Et là, le mec avait raison. Alors, tout le monde dit oui, c'était de la haine Est-Ouest peut-être, mais il n'empêche qu'il avait raison. Et moi, personnellement, ça me cassait les couilles de voir Puff Daddy squatter tous les albums, tous les clips, tous les featuring. Et donc là, c'est son album à lui.
C'est son album, et puis, donc voilà. C'est pour dire que Lil faisait vraiment partie de la team. Et Puffy va vraiment la baquer. Il sera derrière en réalisation. Il va la pousser. Il va avoir une vraie relation, même après la disparition de Biggie.
Et alors, du coup, parce que là, on est en 97. Ça vend combien, le Puff Daddy?
Il fait 7 millions aux États-Unis.
Donc là, concrètement, les gens lui ont dit, bah, écoute, continue à faire l'abruti sur les albums des autres,
hein, parce que, à ce moment-là. Même lui, il a pris la confiance.
Ah, bah oui, là, tu fais 7 millions alors que t'es pas rappeur, ça commence à être intéressant.
Et bon, après, bien sûr, il y a une histoire derrière tous ces albums. Il y a la mort de Biggie, il y a le morceau avec le fameux sample de Sting, je crois. Nanana, je sais plus comment s'appelle le titre d'ailleurs.
De quoi, nanana?
Vous avez reconnu?
Non?
Ah, je lance un jeu concours.
I'll be missing you.
Ouais, voilà,
il est... Non, mais il est pas là-dessus.
C'est pas là-dessus, I'll be missing
you. Bah non, il était pas mort encore.
Ah ouais.
Non, ah bah si, putain.
Si, je crois que c'est
ça. Ah ouais, donc ok, ouais.
Donc c'est même plus du rap, c'est pop, c'est dans la culture.
Moi je retiens surtout de cette époque-là, Will Always Miss Big Poppa des Lox.
Oui, oui, oui.
Qui était très lancinant et très
triste. Ouais, ça, je sais que t'as déjà kiffé ça.
Ouais, franchement, l'aspect était ouf. Bon, bref.
Bref.
Ok, donc Puff Daddy and the Family, ça vend 7 millions. On est lancé.
Là, elle est bien. Elle est bien. Donc, ça lui permet de faire son deuxième album, la petite Kimi, qui va s'appeler d'ailleurs Notorious.
K.I.M.
Voilà. Everywhere I go, red car. Get the keys to my late total park.
Alors là, vous pouvez pas voir, mais je grimace. Je grimace parce que moi, tous les morceaux où t'as l'impression d'être dans la bande-son d'un jeu Sonic, ça m'énerve. Et là, clairement, c'est, je sais pas, Casino Zone, cette merde là. Non, c'est pas possible.
On est dans le moins qualitatif là.
Ah bah ouais, bah après, c'est dans l'air du temps, tu vois.
Mais c'est dans l'air du temps,
là,
c'est
en 2000.
Exactement. On revient à tout ça, mais vous commencez maintenant à connaître. Dès qu'on arrive dans cette période
2000-2002, ça devient n'importe quoi.
C'est vrai que les bandes d'arcade,
les flippers, les sifflets du football.
Il y a un aspect comme surtout sur New York.
C'est l'aspect, c'est le côté un peu. Qu'est-ce qu'il y avait qui pétait tout à cette époque là? Bah c'était le R&B un peu putassier.
Ouais,
on va pas se mentir.
Oui, bien sûr.
Les Drouil, Cisco.
Justement, en parlant de Drouil, ce morceau. Places, seen a lot of faces. Oh hell, I even fuck with different races. A white dude, his name was John. He had a Queen Bee Rules tattoo on his arm. He asked me if I'd be his joueur,
Ah, c'est dur.
Moi, c'est un morceau que j'aime bien. Moi, ça, je l'aime bien, ce morceau.
Mais toi, t'aimes bien tous ces trucs-là, électroniques-là.
Parce qu'il faut s'imaginer
le mec au clavier là. il faut s'imaginer le mec au clavier qui est en train de faire n'importe quoi déjà.
Il faut s'imaginer que c'est de la musique de club. C'est clair que si t'écoutes ça sans l'avoir entendu une seule fois en club ou alors dans ta voiture avec
mais
le son à fond.
Fuck les clubs, nous on est des thugs. Les thugs ils rentrent pas en club, ils restent dehors. Ok,
mais oui, mais
ils sont recal.
Et ça c'est vrai que ça tu balances ça en club. Mais ça te fait danser, ça te fait bouger. Moi,
Franchement, je sais quoi, je préfère me taper Émile et Images qu'un album de ce genre-là, tu vois.
Mais Émile et Images, écoute,
c'est
genre.
C'est vachement bouncy.
Je suis sûr que Swizz Beatz n'aurait pas dit non à Émile.
Ah oui.
Tu vois.
Oh, yeah.
Donc,
Donc featuring Cisco, si vous avez pas reconnu, on est en pleine période Tong Song et tout le reste là. En 2000.
C'est produit par Puffy d'ailleurs à ce morceau, cette douceur.
Bah tu vois, non mais franchement c'est autant tu vois on dit Warren G c'était des productions un peu cheesy.
Oui, oui.
Mais c'est... Puffy c'est quand même des productions méga putassières.
Oui, franchement. Bah, complètement. Je pense que même lui te le dirait.
Ah bah oui, lui de toute façon il prend son, je sais pas si c'était Pro Tools à l'époque, hein, il prend la banque d'effets et ouais. La banque de sons là, il fait bon on va tout mettre.
Ouais, complètement. Voilà,
bon, sur chaque piste, on met 18 effets. Allez, c'est parti. Vrai. Non, quelle catastrophe. Mais en tout cas, ça se vend.
En tout cas, ça se vend.
Et donc, ça, c'est une bonne chose pour la petite Kim.
Oui. Oui, parce qu'elle va faire 2 millions aux États-Unis. Et donc, encore 5 millions worldwide. Donc, ça, là, on cumule. Hein, ça commence à... Là, il commence à y avoir du jet. Et...
Alors, attention, parce que 2 millions sur le deuxième album, qui était aussi comme le premier, qui s'était également vendu à 2 millions, dans d'autres maisons de disques.
Ah, qu'on ne citera pas.
On dira pas le nom, mais ça commence par Co et ça finit par Lombia.
Tu commences
à transpirer en tant qu'artiste en disant ah merde, j'ai fait que 2 millions.
Ah, c'est clair que là,
t'as le manager qui commence à regarder, il fait attends, viens voir ici toi. Je...
Non, c'est clair que quand ton téléphone il sonne, tu commences à paniquer quoi. C'est clair.
Et alors, à la même période, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Kim?
Alors,
parce que là, on pourrait croire qu'elle a tout.
Là, là, tout, Vincent, ouais. Elle a tout pour elle. Comment elle cartonne, elle est populaire, les gens l'aiment bien. Elle est, les femmes l'adorent. Les femmes l'adorent, les hommes l'adorent aussi.
Ouais.
Pour différentes raisons, souvent, d'ailleurs. mais il y en a une autre. Il y en a une autre, d'ailleurs, je fais moi là tout à l'heure. Mais il y en a une autre qui joue un peu la même carte.
Elle,
qui vient, Nana, qui vient du même quartier.
Qui vient de Brooklyn aussi. Aïe,
c'est Foxy.
Foxy Brown, Foxy Brown.
Et elles sont amies du lycée.
Elles étaient potes.
Elles étaient vraiment potes. Ah non, vraiment, vraiment.
Genre dans la même école.
Dans le même lycée, tu vois. Ouais. Dans le même lycée. Elles vont choisir deux routes différentes. Elle va choisir la route Biggie.
Ouais.
Et Foxy Brown va choisir la route Jay-Z. Tu vois.
Qui était aussi à l'époque à ce moment-là.
Ouais. Qui commençait moins que Biggie. Mais
ça lui aurait quand même bien dépanné que Biggie se fasse mystérieusement abattre. Parce que ça lui a permis de prendre la place.
Mais là, tu rentres dans la.
Après, moi, je ne fais pas de théorie du complot, mais quand même, s'il y en a un qui a profité des morts de Tupac et Biggie, c'est quand même Jay-Z. Mais bon.
Conspiracy, du Nord Mafia.
Conspiracy. L'album s'appelait Conspiracy, les mecs avaient tout prévu. Donc, en fait Foxy, elle est avec Jay.
Voilà.
Et ce
serait intéressant d'ailleurs un jour de faire Foxy Brown.
Ouais, franchement, dans une prochaine émission, on va. Hey, tu sais quoi? C'est quoi?
Ouais.
Vas-y, balance le jingle.
Welcome to the show. Fix and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop. DJ
Tarin the. Oh yeah!
Et bienvenue dans cet épisode numéro 6 consacré à Foxy Brown. Parce qu'on est comme ça, Fix and Dash. On encastre les émissions les unes dans les autres. Donc là, on attaque Foxy Brown.
Foxy Brown, c'est qui Foxy Brown?
Alors, c'est qui Foxy Brown? Petit point historique, petit point profil.
Alors, elle a un nom compliqué. C'est Inga. De Carlo Fung Marchand.
Fung comme Fung.
Fung comme Fung, parce qu'en fait, elle est de Trinidad et de Thaïlande. Les parents.
C'est un joli mélange.
Ça mélange les exotiques.
Et elle est née la meilleure année possible.
Bah, bien sûr.
Jusqu'à présent, en tout cas. 1978.
Jusqu'à présent, et
je pense que si c'est moi, on est d'accord pour dire que c'est vraiment la meilleure année.
78.
Ouais. Et donc, elle est. Elle est née en 78, donc la meilleure année à Brooklyn, comme on l'avait dit, puisque dans l'émission d'il y a deux semaines, on parlait de Lil Kim.
De Lil Kim, qui était aussi née à Brooklyn.
Qui était aussi
née à Brooklyn. Amie d'ailleurs de lycée.
Ah oui, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent, tout à fait. Et donc, elle est repérée par les Trackmasters.
Alors, les Trackmasters, c'est les hitmakers de l'époque.
On en a parlé déjà avec 50 et compagnie, je pense.
Ils faisaient Biggie, Nas, etc. Et ils s'occupent aussi d'un jeune rappeur, qui débute à l'époque, LL Cool J.
T'es déjà vieux. Hein.
Ouais, j'étais déjà vieux à l'époque.
T'es déjà
clair.
Vieux. Ok.
Et donc notamment, bon, ils vont la repérer et ils vont la mettre sur un album de LL Cool J que j'aime bien d'ailleurs, qui s'appelle Mr. Smith, en 95 avec ce morceau.
Alors moi je vais te dire un truc, J'ai beaucoup de love pour Lady Love Cool James, mais moi je serais lui sur ce morceau là avec Keith Murray en featuring Fat Joe et Foxy Brown. Je transpirerai à grosses gouttes parce que je me dis, les trois mecs que j'invite, ils vont me défoncer sur mon propre morceau.
Bien sûr.
ce qui s'est passé d'ailleurs.
Ce qui s'est passé complètement, complètement.
C'est là, quand t'écoutes Foxy là, tu dis ok.
Mais c'est un album qui est surprenant. Franchement, si vous prenez le temps de l'écouter, et il est ici d'ailleurs, je crois.
Celui où il est torse nu. Un piège, il est torse nu sur tous les albums.
Il est crâne nu.
Avec c'est l'époque des visières. Voilà. Les visières de tennis avec juste la visière devant.
C'est un bon album. Franchement, c'est un bon album qui est étonnant.
Et là, tu vois, je me tourne vers Ghislain, qui est un peu notre candide dans cette émission, et je lui dis bah voilà, ça c'est LL Cool J, pardon. Quand il a appris que sur son morceau, il y aurait Foxy Brown, Keith Murray et Fat Joe en featuring, bah, il se tire la tête. Le mec, il dit, j'y arriverai jamais.
C'est un morceau qui a bien marché. Hein. C'est un morceau qui a été joué dans pas mal de tapes, ce morceau-là, le show, tiens. Et ça va lui permettre de signer chez Def Jam. Elle va signer chez Def Jam.
Tout à fait.
Donc Foxy Brown
rentre chez Def Jam.
Elle rentre chez Def Jam, donc un peu la concurrence d'Atlantique.
Ouais.
Et elle va sortir un premier album, Il Nana. Avec ce morceau.
C'est comme ça que j'ai appelé le morceau.
Ouais, exactement. Il faut noter que Naz, il m'a dit, tu vas jouer le morceau de Foxy Brown.
Il me dit, alors, ça c'était sur le Slack parce que, donc, Six, il me fait, ouais, faut qu'on parle de Foxy Brown et tout. J'ai dit, bah, obligé, si on parle d'une nana, on met le morceau là. Tu vois. Après, j'ai dit, non, c'est pas c'est Ooh Baby Get You.
Et après, tu m'as sorti le vrai titre.
Get You Bring Me Home With Me Tonight, je sais pas quoi.
Mais bien en sûr, fait, c'était c'est
Get
clair.
Me Home. Voilà. Get Me Home avec Blackstreet.
Exactement. Blackstreet. Ah, alors, ça tube. Hein.
Ça, là, c'était une frappasse.
Ah, c'est une frappasse.
Une frappasse atomique. Là, on est en quelle année? On est en 96. Alors, attends. Ce qui veut dire, si les calculs sont bons, Kevin.
Oui.
Petite vanne humoristique à destination de tous les moldus qui aiment cet humoriste-là que je déteste. Alors, ça veut dire que, parce que là, on a quand même un conducteur chez Six and Daz, on fait les choses proprement. Je vois que l'album de Foxy Brown sort en novembre 96.
Ouais.
Et quand je reviens sur la première page, je vois que l'album Hardcore de Lil Kim sort en novembre 96.
Hasard, je ne crois pas, non.
Quelle baise. C'est-à-dire qu'il y a deux meufs qui savent bien rapper et les execs des deux maisons de disques qui se disent « on va aller foutre dos à dos ».
En frontal, directement. C'est-à-dire, tout a été préparé. Et le bif qui va conduire ces deux amis, parce qu'elles étaient vraiment amies, elles ont même fait la couverture de The Source ensemble.
Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle.
Elles étaient ensemble.
Je m'en rappelle parce que je ne l'ai pas acheté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « qu'est-ce que c'est que cette merde ?»
C'est le février de 97.
Tu vois, donc en fait elles sont sorties le même mois
et à une semaine près,
à une semaine d'intervalle,
à une semaine près, tu vois. Ça c'est les... alors là c'est vraiment encore une fois on sait un coup des exécutifs qui ont voulu les mettre en frontal. Putain. Parce que bah malheureusement
toutes ces jeunesses manipulées, moi ça m'énerve.
Ouais, c'est...
non, parce que là clairement
complètement, surtout que c'est une amitié qui va se transformer en beef et qui va aller super loin. On va le voir juste après, ça va aller super loin. C'est à dire que
Donc là,
parlait même d'une rumeur d'un album à un moment. Thelma et Louise, il y avait une rumeur comme quoi elles pouvaient faire un album en commun.
Bon, Thelma et Louise, le nom bien choisi, puisqu'à la fin du film, je vais pas vous spoiler, mais les deux se suicident. Donc, tu vois, si t'appelles ton truc Thelma et Louise, c'est un peu con, c'est comme dire Bonnie and Clyde. Bah, après tout, Jay-Z l'a fait avec Beyoncé, il est con celui-là.
Alors, il va même le faire avec Foxy Brown aussi, Bonnie and Clyde, partout.
Ah oui, parce que Jay-Z, il était partout, lui. Non, mais c'est vrai quand on y pense.
Ouais, c'est vrai.
Foxy Brown, Rihanna.
Ouais.
Il a un truc, hein.
Ah,
un petit king pour les petites.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Exactement.
Jay-Z, c'est un tonton du bled. viens par là, ma chérie. Viens.
Ouais, là, c'est clair que là, Beyoncé, là.
Donc là, Foxy sur Il Nana, donc son premier album. Ouais. Elle en vend combien?
Elle fait un peu moins que l'équipe, puisqu'elle fait 1 million US, mais 3 millions worldwide. Ce qui est quand même.
Elle
est jeune, hein, attention. À l'époque, quand elle enregistre, elle a 16 ans. Et l'album sort, elle a 18 ans.
Donc elle est plus jeune en plus.
Elle est encore plus jeune, tu vois. Et ça, ce qui va d'ailleurs aussi encore enclencher une petite polémique, parce qu'elle est très sexuelle dans son album.
Alors qu'elle n'est pas majeure.
Ouais. Donc ça a fait aussi une petite polémique à l'époque. Les gens se disent, bon, mais là, on va.
Bah, on va, là.
Bah, on va.
Effectivement, entre l'autre, t'es sur sa peau d'ours, et là, t'as une meuf de 16 ans qui est... Ouais. Bon, là, Ah oui.
Certains diront que c'est
artistique.
C'est artistique,
à ce niveau-là, on dit que c'est artistique maintenant. Et donc Foxy, en plus, elle intègre un super groupe.
Eh oui.
Je rappelle, hein, quand je dis super groupe, c'est pas un groupe qui était super.
On n'a pas du tout.
C'est
là.
Un groupe qui était comme un robot qui se combine. Voilà. Donc c'est
Power Rangers.
Voilà, c'est ça, c'est Voltron, tu vois. Donc là, le super groupe en question, c'est la firme The Firm.
The Firm. Alors, pour
avec,
moi,
avec Nas.
Eh oui.
AZ.
AZ, Nature.
Et Cormega aussi.
Non, il a été remplacé au dernier moment par AZ Cormega. Ah, et oui, c'est ça l'histoire.
Là, il était en tôle.
C'est vrai. Je sais plus pourquoi c'est.
Ouais, ils se sont embrouillés, je pense. Ouais.
Je pense que c'est une question d'embrouille parce que devait être Cormega. Ça aurait été autre chose de que Nature, déjà.
Ouais, déjà, ouais. Mais c'est, en fait, ouais. Easy et Cormega auraient dû être sur le truc.
Ouais, ouais, pas
Nature.
Ouais, bon, complètement. Bah,
ok.
Et le tout produit par Dre et Trackmasters. Alors moi, je peux vous dire, franchement, à l'époque, je l'ai attendu le truc. Ouais. Comme j'attends le retour du Messi. Ouais. The Firm, je dis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être dingue.
Ça va être ouf.
Et ça a été un flop. Une déception.
Non.
Ah, si. À moi, from à part fiasco, Affirmative Action, il y a alors, deux morceaux à sauver, le reste.
Bah, Affirmative Pétard Action, en plus, c'est marrant, là, mais du coup, c'est un peu con parce que sur ce morceau-là.
D'ailleurs, c'est surtout sur l'album de Nas, je crois, c'est non?
Sur l'album de Nas.
Je crois qu'il ne met pas. Il y a pas un morceau qu'on retrouve.
Mais sauf que le pressage français, c'était NTM qu'ils ont foutu dessus ou le contraire. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Avec Nas en doudoune, là.
C'est vrai que tu m'as fait un truc, là.
Ah là là, putain, quel souvenir.
Pour toi, pour moi, c'est un très mauvais souvenir, ça.
Bah, ils disaient eux-mêmes, faire un fiasco. Bah, pour le coup, ils ont eu raison. Ah, mais attends. Je me saisis sur la table de l'album The Firm. Parce que, comme on le dit, Six fait très bien ses devoirs, puisqu'il ramène les vrais albums. Alors, sur la pochette, il y a Nas avec ses petites lunettes, genre, je lis des livres.
C'est sa période Escobar,
ouais. Ouais, Nas Escobar. Et je retourne. Et qu'est-ce que c'est que Vlatipa que je vois écrit en bas, en lettres?
Ah, Colombia.
Colombia.
Ah, ils sont là quand même.
Donc c'est on avait dire, dit ouais. Pas de... Ah non, au fait, on n'est pas dans l'émission de Kim, on est dans
l'émission. Non, non, bah non. Bah, attends,
ah.
On est...
On
rebat le
vas-y, jingle.
Welcome to the show. Six and Dash Hip-Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip-hop.
DJ, turn it up. Oh, yeah.
Ah, yeah.
Oui.
Ok. Alors, rewind, on revient dans notre épisode numéro 5.
On regarde 15 jours en arrière.
Voilà, bref, c'est ça. Donc, on retourne il y a deux semaines. On est bien dans l'émission consacrée
à Lil Kim.
À Lil Kim. On a fait un interlude Foxy Brown, mais concrètement, on s'est dit qu'on n'allait pas faire une émission sur Foxy Brown.
Non, parce qu'elle a sorti trois albums, dont deux respectables, et après, bon, c'est parti.
Ouais, après, c'est parti en sucette. Donc, voilà, on a fait un petit encart. Vous pouvez découper cet encart dans votre émission.
On mettra un timer si vous voulez sauter. Si vous voulez sauter, vous voulez Foxy Brown, vous pouvez directement revenir ici.
Donc, retour sur Kim. Voilà. Enfin, à côté.
Voilà.
Mais enfin, pas loin.
Ça permet de mettre dans le contexte le.
Donc, il y a un beef. Donc, on rappelle, quand même, deux albums, les deux albums des deux meilleurs et seuls MC féminins de l'époque sortent le même mois.
À une semaine près. Voilà.
Bravo les maisons de disques. Ouais. Superbe move. C'est très intelligent.
Et oui, parce qu'ils considèrent qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est que le beef, et même aujourd'hui, on peut le voir avec Booba et tout ça, le beef fait beaucoup plus vendre que l'amitié ou l'album commun, ce qui est une connerie parce que tu regardes un Kanye, Jay-Z ou tu sais
un Jay-Z R. Kelly.
Ah non, bah, le Jay-Z R. Kelly, j'ai bien apprécié ça.
Best of Buzzwords. Ouais, c'était pas mal.
C'était pas mal quand même.
Il doit regretter maintenant, il essaie de gratter son nom sur tous les exemplaires.
C'est clair.
Mais à l'époque
l'autre,
il n'avait pas encore quasi. Enfin, si. Mais c'était
non,
pas grave.
Non, il faisait pipi à l'époque. Il a fraudé.
Oui, c'était ça. Ouais.
C'était son délire.
Ah, ok. Voilà. Oh putain. Dieu nous pardonne.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est grave. Et bon. Et donc voilà. Donc c'est vraiment une question de label. C'est vraiment les exécutives là qui vont.
Donc ils ont réussi à faire se retourner l'une contre l'autre.
Voilà.
Des meufs qui étaient potes.
Exactement. C'est complètement. Balèze. Complètement. Et donc là après ça va y avoir un coup d'insulte. Foxy va dire que Lil Kim c'était la maîtresse de Biggie.
Bah excuse-moi mais.
Ce qui est pas faux.
Alors, ce n'est pas complètement faux, mais elle a bien foutu la merde, celle-là, parce que.
Bien sûr, complètement.
Elle a dit, que Biggie Smalls, donc, était mort, en plus, qu'il pouvait même pas se défendre, pauvre diable. Kim était sa maîtresse.
Bien sûr.
Alors qu'on rappelle que Biggie était marié à Faith Evans.
Ouais,
qui était signé aussi chez Bad Boy.
Ouais, ouais.
Superbe ambiance.
Ah ouais, ah non, mais grave, grave. Bon, ça, c'était un secret de Boliginel, hein, Lil Kim et Biggie.
Oui, bon, il avait dû, faire un peu plus que Ghostwriter ses trucs, mais bon.
Mais bon, elle, c'est un argument. Elle le disait, et voilà, puis elle s'est rapprochée avec de Faith Evans. Faith Evans passait en plus pour la coupable, tu sais, bon bref, toute une histoire. Puis ben, forcément, Lil Kim elle s'est pas laissé faire. Et dans le Quiet Storm qu'on a joué tout à l'heure,
de Mobb Deep, donc,
elle le traite de pute de l'industrie. Tu vois, elle lui dit voilà, toi, si t'as réussi, c'est parce que t'es une pute de l'industrie, c'est que t'as couché avec tout l'industrie. Genre.
Ce qui n'était pas faux, puisque Foxy Brown à l'époque couchait avec Corrupt.
C'est vrai, exactement. C'est vrai qu'elle était avec Corrupt. Et à l'époque, c'était exactement ça.
Je me rappelle que quand elle est sortie avec, j'ai fait oh là.
Ouais, c'est vrai. Elles se sont restées pas mal d'années.
Ils sont restés 5 ans, donc c'était une vraie relation. Tu vois, j'ai fait aucun respect.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Respect.
C'est vrai. Et
comme quoi, la guerre East Coast-West Coast, il y en a qui trouvaient leur compte.
et ça va dégénérer parce qu'en 2000, donc à la sortie de Hot 97, donc la radio qui nous a pompé notre jingle, je rappelle.
En 2001 même.
En 2001, ouais. 2001.
Ouais.
Et il va y avoir des coups de feu qui sont tirés. 10 coups de feu ou une vingtaine de coups de feu qui seront tirés. Il y aura une personne blessée.
Ah, il y a un blessé quand même.
Ah, il y a un blessé. Ouais, y a un blessé.
Parce que d'habitude, je veux pas dire, mais les Renois, ils savent pas tirer. Hein.
Ils savent pas tirer.
À force de tenir leur flingue sur le côté.
Attention, peut-être qu'il s'est tiré dans le pied, le mec.
Ah oui, ça se trouve, il s'est blessé tout seul.
Voilà. Okay. C'est possible. Attends, c'est
ouais, parce
possible.
Que réussir à toucher une personne en mettant 20 bastos dans une porte de radio. Parce qu'on rappelle, ils ont tiré de l'extérieur.
Ouais,
évidemment.
Oui.
Ils avaient pas les codes.
Voilà.
Donc, ils ont tiré sur la radio quand même pendant que Foxy était dedans.
Exactement, faisait sa promo. Donc, ça dégénère bien. Et puis, Foxy Brown, bon, va être sûr, va être.
Attends, mais en plus, elle faisait sa promo Foxy. Elle était en fit. Sur un morceau de Capone et Noriega.
Exactement, ouais, ouais, c'est bien, ouais, ouais. Très bien. Ouais.
Ça, je me rappelle, je détestais ces gens, mais je regardais tous les, parce que moi j'espérais que tout le monde à New York meure. Ils nous avaient pris Tupac, tu vois, donc moi j'attendais, dès que j'entendais des histoires de
Tupac. 20 balles tirées à New York, putain, il y a l'espoir.
20 balles tirées, tu te dis, putain, il y a au moins un rappeur qui est mort, c'est pas possible, tu vois. En plus c'était CNN, on était en plein dans la période LA, New York et tout. Je me suis dit, allez.
Eh ben non, même pas.
Et comme à New York, ils savent pas viser, contrairement à Las Vegas où quand ils décident de tuer des gens, bah ils tuent Tupac, les mecs. Là, à New York. Et si on se rappelle bien, Tupac, il s'était déjà fait prendre dans un guet-apens.
Sorti de studio.
Avant de rentrer au studio.
Avant de rentrer au studio.
Ouais, pour rejoindre justement Puff Daddy et Biggie qui étaient à l'étage.
Ouais.
Au studio, c'était quoi? C'était Quad Sound.
Ouais.
À New York.
Ouais, je me rappelle cette histoire.
Et là encore. Les mecs te braquent à bout portant et ils te ratent. Non, ils l'ont raté.
C'est parce qu'ils tiennent leur pistolet sur le côté.
Mais
tu vois,
oui, mais c'est
ça le problème.
Avec les doudounes et tout, ça gêne. Ça gêne. Alors que tu vois, la Kalachnikov, côte ouest, crac. Ça y est, c'est réglé.
Vrai.
Terminé.
Vrai,
bien sûr. Ils savent pas viser ces New Yorkais, c'est une catastrophe. Donc, coup de feu sur la radio.
Voilà.
Et là, les gens se disent.
Ça va un peu loin.
Sachant que en 2001,
l'équipe, on a entendu par la justice, elle va nier. Elle dit non, pas du tout, on n'est pas au courant, rien du tout. C'est filmé. C'est filmé dans la vidéo, on les voit tous les trois. Elle, son manager et son garde du corps.
Quoi?
Qui était un ancien de Junior Mafia, d'ailleurs, qui s'appelait Jackson, je sais plus, j'ai pas noté le nom.
Non mais attends, comment ça, elle était dedans?
Oui, on la verra il y a une vidéo où on les voit tous les trois, tu vois.
Quoi, mais tirer sur le
drone? Non, mais dans le...
Ah, dans le quartier?
Dans le quartier, là, dans l'endroit.
Les
eh oui, et tu vois, et donc elle va être accusée, et là c'est le point justice, de parjure.
Alors,
elle va pas être accusée parce que c'est son garde du corps qui a tiré, donc elle sera pas accusée d'avoir tiré.
Ah, elle a menti sous serment.
Mais oui, exactement. Et elle va faire un an ferme de prison. Un an ferme, c'est quand même pour par jour. C'est
donc tu vois là, c'est-à-dire que si on reprend le truc, c'est-à-dire que les maisons de disques montent un petit peu la sauce pour que les artistes se détestent.
Oui.
Ça fonctionne à tel point que ça finit par tirer des vraies balles sur une vraie porte de vraie radio.
Ouais.
Et l'autre, elle prend un an pour parjure.
Ouais, parjure. Ouais.
Attends, les Américains.
Le mec a tiré, je vais faire 12 ans. Et elle fera un an. Et un an ferme, elle va vraiment tirer les 12 mois. Et à partir de juillet 2005. Et à partir de là, elles se parleront plus jamais. Mais l'histoire va s'arrêter là. Le bif va s'arrêter là. Et
enfin, le bif va s'arrêter là, oui et non.
Enfin, de son côté, en tout cas, elle en parlera
plus. Oui, en fait, elle en parlera plus.
Ouais,
en même temps, elle a fait
Foxy
de la tôle.
Foxy va en parler un peu. Va essayer
Foxy,
de...
elle.
Ouais. Elle va essayer aussi de calmer le truc. Je sais qu'elle va vouloir revenir, tout ça. Parce que. C'est aussi l'époque où il va y avoir des télé-réalités, des TV shows, tout le monde va être à droite, à gauche, d'ailleurs on en parlera. Il y a une émission qui s'appelle sur BT, Lil' Kim, Countdown to Lockdown.
Ah putain, un problème les arrêter.
C'est-à-dire qu'ils ont filmé toute sa période pré-prison tu vois, et son entrée en prison. Tu vois, et ça a été le plus gros carton d'audience jamais fait par BET.
Incroyable.
Ça a été un carton, tu vois.
BET qui était bien sûr la chaîne de l'émission célébrissime 106 and Park.
Voilà. Qui aussi nous ont pompé notre nom.
Qui nous ont pompé notre nom, notre logo.
Ouais.
Ah,
tu vois. C'est aussi, alors, on peut en parler aussi, Lil' Kim, là on parle de ses albums, de du côté street. Mais ça me fait penser aussi à T.I. C'est le côté street, mais avec des feats.
Cheesy.
Elle va faire tout le monde. Elle va faire tout le monde, notamment ce titre.
Ah bah oui. Money in the garden banks. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's true. I'm sorry. Anyway, so. Bah alors là, en général, quand tu dis Lil' Kim, les gens, ce qui se rappellent, c'est ça.
C'est ça.
C'est la BO de Moulin Rouge.
Exactement.
De Moulin Rouge.
Moulin Rouge.
Pardon. Pardon, Moulin Rouge.
Donc elle va faire ça, elle va faire Christina Aguilera. Donc avec le
non mais alors attends parce que ça déjà c'est avec Christina Aguilera.
Oui c'est déjà avec Christina Aguilera donc elles vont certainement copiner tu vois, elles vont se dire ah c'est bien je fais un album qu'est-ce que t'en penses, tu veux venir poser, ouais je vais voir, attends j'ai le temps, oui bon voilà. Et elles s'arrangent, elles font un sur l'album de qui arrive juste derrière Christina Aguilera, l'album Stripped, elle va faire un deuxième single et donc elle fera aussi le Naughty Girl de Beyoncé
qu'on n'a pas non plus.
Qu'on n'a pas non plus, bien sûr.
Donc, Naughty Girl de Beyoncé.
Okay. Il faut le chanter. I'll be a naughty girl.
Et donc, tout ça nous amène à... Parce que là, du coup, fast forward, on est maintenant en mars de l'année 2003.
Mars de l'année 2003, parce qu'en fait, on a un peu parlé du bif qui nous a emmené en 2005, mais on va revenir en arrière. On va revenir en arrière en 2003 avec le troisième album. C'est La Bella Mafia.
La Bella Mafia.
Oui, excuse-moi, c'est notamment dans cette belle période où ils parlaient tous un peu italien. Et avec ce single.
Ah, là. Bah, j'ai pas d'avis sur
la bonne époque. Bon, vous aurez reconnu, donc en plus elle l'a dit, Timbaland à la prod.
Bah, si jamais les ting-a-ling-a-ling-a-ling n'étaient pas suffisamment.
Donc The Jump Off, très gros single aussi.
Très reconnu. Hein,
oui.
Je rigole, on a l'impression encore d'être dans un flipper, mais bon, ça roulait sur
tout
le monde.
C'est Timbo, de toute façon, aussi là on est en 2003, 2004, 2005. C'est le roi de
avec un featuring sur ce morceau qui est assez peu connu, Mr. Chicks des Lost Boys.
Oui, Mr. Chicks des Lost Boys, exactement. C'est vrai que c'est bien de signaler.
Ouais.
Parce que c'est quelqu'un qui est hyper, hyper reconnu aux États-Unis. Il est hyper respecté, Mr. Chicks, mais en France, qui est totalement inconnu.
En France, on ne le connaît pas.
Totalement, totalement inconnu. Et mais c'est surtout le deuxième single.
On se demande avec qui il est. Avec qui elle est.
Ah oui. Eh oui, et ça va vraiment surperformer. Le Magic Stick, ce titre a une histoire intéressante parce que à l'époque, donc 50 prépare son album, le premier album, Get Rich or Die Trying. On vous invite d'ailleurs à
écouter cette émission. C'était la numéro 1.
C'est la numéro 1, voilà. Et ce titre, on devait être pour l'album de 50. Et il va demander à Trina. Donc une autre beach, ce sera c'est d'ailleurs Da Badass Beach.
Ouais, mais de Miami, celle-là.
De Miami, exactement. Ouais. Son nom, c'est Da Badass Beach. Donc, voilà.
Il y a un concours. Hein,
Il y a un concours.
Ils auraient pu dire The Beachest, mais en fait non, c'est The Badass Beach.
The Badass Beach. Et 50 ne sera pas satisfait du couplet de Trina. Il va demander à Lil' Kim de poser. Et Maline, la Kimi, elle va rendre le morceau en retard, après pressage. Après mastering plutôt. Et donc Fifi va lui dire, bah écoute, le morceau est enregistré, il est bien, bah garde-le pour ton album. Et donc elle va se retrouver avec un hit. Elle va se retrouver avec un hit parce que Magic Stick, ça a tellement cartonné que moi, ça a vraiment cartonné Magic Stick. C'est un morceau qui a même tourné sur Skyrock à l'époque. Et que les gens savent pas que c'est un morceau de Lil' Kim, quasiment. Les gens l'identifient comme un morceau de 50 Cent. Tu vois, tu dis Magic Stick, genre tu dis 50 Cent, tu vois.
Ouais.
C'est, alors que c'est un morceau de Lil' Kim sur son album, elle.
J'ai l'impression que 50 Cent, il a fait 172 morceaux qui s'appellent Magic quelque chose avec le même flow.
Gandhi, quelque chose.
Ouais, tu vois. Ouais, ok. Donc à la base, ouais, c'était un morceau pour Trina. Ouais.
Pour 50, pour Get Rich or Die Trying. Et oui, avec Fit.
Mais avec Trina.
Avec Trina à la place.
Et en fait, il était pas content.
Il était pas content.
Ouais.
Et tu vois, et elle, Maline, elle a attendu. Vous avez excusez-moi, avec une voix certainement, tu sais. Bonjour, vous avez masterisé l'album? Ah bah, il m'a fait. Bah tiens, 50. Je t'envoie le morceau. Mais trop tard, on a masterisé l'album.
Ah.
Non, bah garde-le le morceau, c'est bon, allez.
C'est bon, bah c'est dommage.
T'es un bon de sûr,
moi. T'es sûr, t'es bien qu'ils soient quand même sur l'album. Ouais, ok.
Donc voilà,
malin.
Et ça va aider, l'album.
Parce que là, combien d'ailleurs, attends.
Alors, il va faire 1 million US et 2 millions worldwide. Alors, ça peut paraître peu, mais on est en pleine crise de l'industrie du disque.
Alors on va pas s'en cacher, hein. L'industrie du disque, elle n'arrête pas d'être en crise.
Hein. Ah oui, bien sûr. Mais là, on est vraiment 2003, ouais. 2004, 2005, c'est la période où tout le monde pleure.
C'est la période où tout le monde est sur Napster.
C'est, tu vois,
sur Soulseek, sur Kazaa, sur tout ce que tu veux.
Les chiffres, c'est du moins 40, moins 50%. C'est des chiffres, vraiment, l'industrie du disque.
Oh, bon, on va pleurer.
Petite larme pour.
Ouais, pour Columbia, notamment. Et alors donc, bah, du coup, ça vend moins bien, mais ça vend quand même
ça
bien
vend correct,
par
ça
rapport
vend
au contexte.
Voilà, exactement.
Ce qui lui permet de faire un
quatrième album.
Hey. Oh, c'est presque propre. Ah. Hey, c'est petit flow, ce petit flow ragamuffin.
Non, franchement, allez, on peut reconnaître tout ce qu'on veut, Kim, c'est vrai, le marketing, les bus, tout ça. Mais
elle rappe bien.
C'est une bonne rappeuse.
C'est une excellente rappeuse.
Franchement.
Petit clavier, je reconnais les trois notes parce que ils ont acheté que trois notes sur leur clavier, les mecs. Donc c'est évidemment l'autre fou là, la colite de Dr. Dre, donc Scott Storch.
Exactement.
Évidemment.
C'est marrant parce qu'on retrace à chaque fois aussi les périodes. Hein. On voit la période Swiss Beats,
C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu un seul morceau de Swiss Beats.
Non. Enfin, en tout cas, qu'on l'a pas sélectionné certainement sur les albums.
Tu crois qu'il y en a quand même?
Oui, je suis sûr.
Parce que ça me semble bizarre.
On va aller au hasard. Je viens au hasard, celui-ci. Bon, peut-être pas celui-ci. Celui-ci doit y avoir, je suis sûr.
Ça, c'est La Belle à Mafia. Bah oui, donc, ok.
La Belle à Mafia. En live, hein. On va regarder en live.
Swiss Beats. Oh là là, encore une fois des. Alors, en même temps, tu vois la meuf, tu te dis...
Elle aime bien les peaux. Aujourd'hui, ça se ferait plus.
Une peau de bête. Mmh. Surtout que là, déjà, elle a plus la même gueule. Hein. Je veux dire, là, tu me dis, c'est pas Lil Kim, c'est une autre meuf. Je te dis, ouais, c'est vrai.
On en parlera après. C'est vrai qu'il y a un petit souci.
Alors, attends.
Un petit syndrome Bogdanov.
Alors déjà, il y a un feat avec Avok. Putain, Produced By. C'est où, Produced By? Alors, Produced By Avok, ok. Donc vas-y, un meuble pendant ce temps-là. Oui.
Alors, Swiss Beats, neveu des créateurs de Rough Riders, qui est un producteur qui a bien cartonné.
Attends, est-ce qu'il est... je suis sûr qu'il n'y est pas. Et ça veut dire
qu'il
y a... Ouais, il y a peut-être eu un beef.
Ah, si.
This Is Who I Am, le track numéro 7.
Voilà, exactement. Donc il est là.
Swiss Beats. Donc c'est bon.
Ça aurait été étonnant.
Non, ouais, le truc est respecté.
Enfin, ça respecte, on est bien. Et donc c'est un single qui va bien marcher aussi. Et on peut le reconnaître, elle va changer, voilà, comme tu dis, elle change de flow, elle change de tête aussi.
Ouais, ça par c'est, contre, ouais.
Mais ça, c'est, on peut en parler vite fait, bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais il y a
son
gros...
corps, son choix.
Son corps, son choix, mais là, franchement, c'est un abus de chirurgie, mais qui va la flinguer complètement.
Bah là, ressemble un peu au frère Bogdanov.
Hein. Ah, mais complètement. C'est, comme on disait, c'est quand tu commences à réparer les réparations, c'est mort.
Ouais.
Et elle va se lancer là-dedans, tête baissée dans la chirurgie, de tous les côtés.
Après, il y a un truc quand même sur lequel on s'est jamais trop questionné, c'est que je crois qu'elle s'est jamais remise de la mort de Biggie.
Certainement, mais bon.
Et du coup, tu vois, il y avait de la surenchère et tout, parce que finalement, tout le monde regardait Faith Evans en disant, oh la pauvre, oh t'étais marié avec lui, oh il est mort et tout. Et l'autre, en fait, elle a eu que dalle.
Oui, bien sûr, mais après, bon, elle aussi, elle refait sa vie. Moi, je pense honnêtement, c'est plus une course en avant du show business, c'est-à-dire vouloir ressembler au critère.
Tu vois, moi, j'essayais d'être un petit peu humain et tout. Lui,
parce que
bassement business.
Parce que j'ai du mal à voir Lil Kim, tu sais, pleurer.
Elle était triste.
Elle devait dire ça sans chirurgien. Je suis tellement triste, vous pouvez me refaire la bouche.
Et voilà. Et j'avais dit qu'on finirait par faire un drift. Ben voilà, ça y est. Donc évidemment, je me désolidarise de ses propos. Si elle veut se faire refaire la bouche, elle se fait refaire la bouche parce que son corps, son choix.
Mais si elle est triste, hein.
Mais en plus, elle est triste. Ok. Donc il y avait un autre. Il y avait un autre single.
Single qui sera produit par J. Rotten. Wow. Qu'on va pas jouer parce que bon, il est pas.
Parce qu'il faut pas déconner. Ouais, okay, voilà. Super. Alors cet album, donc La Vérité Nue.
Ouais. Et il va bien performer parce qu'il est porté par un gros single. Il va faire 2,7 millions monde. Et 6e au Billboard, à peu près 500 000, 1 million aux États-Unis. Ce qui, encore une fois, en 2005, un très 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 bon chiffre. Hein. C'est surtout un album qui va être super bien reçu par la critique, qui va recevoir 5 mics dans The Source.
Alors, il faut petit point contexte. The Source, donc le magazine hip-hop de référence avec Vibe, entre autres.
XXL
et compagnie. Mais en tout cas, c'était celui qui avait vraiment, qui était la bible. Ouais, même moi, je l'achetais ici en France.
Ah ouais, bien sûr.
Et il notait les albums, il faisait des reviews d'albums sur 5 micros.
Voilà.
Donc c'était une main qui tenait un micro, c'était la note.
Ouais.
Un bon album chez The Source, c'était 3 micros et demi.
3 micros et demi.
3 micros et demi, t'es solide. Hein.
Voilà.
Là, la meuf, elle a eu 5.
Et encore une fois, ce sera...
C'est-à-dire que même Illmatic, il a pas eu 5, elle a 5 micros, je crois.
Ils ont fait une période où ils ont renoté les albums et ils ont remonté.
Parce que même Doggy Style de Snoop, il a pas eu 5.
Ah ouais, ça c'est ouf.
Ça c'est n'importe quoi.
Ah bon,
ouais.
Mais elle va avoir 5 mics avec cet album. C'est la seule femme MC qui aura 5 mics ever.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus jamais eu de 5
Déjà, je pense qu'en mec, il n'y a pas eu beaucoup, 5 mics. Ce serait bien un jour de voir la liste. Moi, je serais curieux de voir la liste des 5 mics, ce qu'ils ont mis.
Bizarrement, je pense que ce soir, c'est en New York, que ce serait plutôt des albums new-yorkais.
Oui, bien sûr.
Ils sont capables de mettre 5 mics à DazFX. C'est enfoiré.
C'est enfin, très, bon. Très bonne chose aussi.
Oui, oui, bah, faut aimer les roulements.
Mais alors, voilà. Mais le problème de cet album, c'est qu'elle est en prison pendant toute la promo. C'est donc, elle est en 2005-2006.
Ah, là, tu
elle
vois,
tire son année.
Eh ben, quelque part, je me dis, tu vois, c'est le karma. La revanche karmique. C'est-à-dire que tout ce bordel, ça a été provoqué par les maisons de disques ouais. qui voulaient créer un beef entre elle et Foxy Brown. Résultat des courses pour l'album qui est noté 5 micros et donc le mec, l'exec de la maison de disques qui devait se dire « Yeah ! À nous la thune !» Eh ben la meuf elle en tôle à ouais. cause de tes conneries, donc quelque part c'est bien fait pour toi.
Et en plus la prison ça va vraiment la traumatiser. C'est dans les interviews, c'est un an de prison. En plus elle, elle s'attendait pas du tout à ça. Je pense que comme on dit, ça a été monté. Elle a été dépassée par les événements.
Tu vois, oui, parce qu'on rappelle que son seul crime finalement c'est d'avoir du nono, je peux pas vous parler.
Voilà, exactement, on a dû lui dire de dire ça en plus. Oui, tu vois, on a dû lui dire voilà, écoute, tu nies, t'en fais pas, on est baqué, y a personne qui saura, gars, Biggie, personne sait qui est tiré. Ouais.
Donc, et puis boum, voilà, eh ben, si, y avait des
voilà.
caméras.
Eh oui, voilà. Donc, donc elle va se retrouver 1 an, 12 ans en prison et ça va vraiment la traumatiser. Elle va sortir, elle va plus rapper pendant un certain temps. Elle va même en 2018, parce que ça fait un jump, hein, parce qu'on le passe de 2006 donc à 2018 sans sortir d'album. Sans sortir d'album.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'après ce truc-là, on s'est dit, bah, ça y est, elle est finie.
Et complètement. Elle va sortir de prison, elle va faire une petite tournée en 2010, et puis elle va quand même avec les Trackmasters, donc les Trackmasters qui avaient produit Foxy Brown. Comme quoi, tu vois.
Alors eux, mon pote, ils bouffent à tous les râteliers.
Eux, ils n'ont pas peur de se dire, tu vois, c'est clair. Et ils vont faire un album, un cinquième album, qui va complètement être enregistré, prêt à sortir, et qui ne sortira jamais. Qui ne sortira jamais parce qu'ils ne vont pas s'entendre.
Je rappelle que les Trackmasters, c'est ceux qui avaient fait exactement la même chose avec 50 Cent.
Ouais, complètement.
Sauf que lui, du coup, il l'avait vendu dans la street.
Ouais, voilà. Bon. Alors, Lil Kim, elle ne le fera pas. Et elle va même avoir une interdit, elle l'explique dans une interview, qu'elle va avoir une interdit de sortir les morceaux commercialement. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, elle ne pourra sortir aucun morceau
de cet album.
De cet album à cause du contrat et d'une notion, enfin, d'une clause dans le contrat qu'elle a signée comme quoi elle ne
peut
pas sortir de morceaux.
C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tout le monde autour de ce truc a bossé.
Ouais.
Les mecs, ils veulent même pas qu'on le fasse écouter.
Non, non, complètement. Les Trackmasters, à l'époque, sont tellement hauts qu'ils s'en foutent. Ils disent, ah, ok, tu veux pas, ils ont dû s'embrouiller sur des clauses, hein, tu vois, je sais pas, de l'argent ou genre, je sais pas quoi. Ils vont pas s'entendre et vraiment se dire, ok, d'accord, on vend ton album, on le met dans le tiroir, on ferme le tiroir, mais toi, tu peux rien sortir. Donc, elle va être bloquée pendant 3-4 ans. Elle va sortir des petites mixtapes qu'elle doit donner, en plus, en téléchargement gratuit, qui sont d'une qualité médiocre. Et là, elle va s'enfoncer vraiment dans la spirale de l'oubli. Les gens vont commencer à oublier Lil Kim. Ils vont se dire, allez où Lil Kim?
Ouais, c'est surtout qu'en plus, comme elle ressemble plus à elle.
Déjà, en plus, elle est où vraiment?
On pourrait dire, je suis là, on dirait, non, mais derrière, t'es où? Parce que, ok, non, mais poussez-vous, madame. Elle est où Lil Kim? Mais c'est moi, je vous dis. Mais vous me reconnaissez pas?
Alors, après, comme on dit, elle va tomber dans la spirale du succès, c'est-à-dire danser avec les stars.
Ah, elle va faire ça.
Elle va faire Danser avec les stars aux États-Unis. Ouais. Et là, quand tu fais Danser avec les stars, c'est vraiment.
Que t'es déjà plié. Ouais, alors, plié. On rappelle quand même, Danser avec les stars aux États-Unis, c'est quand même une autre magnitude que le nôtre.
Bien sûr.
Tu vois. Même en si, fait, les stars. Parce que eux, au moins, c'est des gens qui, à un moment donné, c'était des stars.
Oui, c'est vrai.
Alors que nous, Danser avec les stars, tu fais, c'est qui?
Eh, bien sûr. Même si la première saison, je crois, il y avait quand même les Chaim, les Pokora et tout ça.
C'était de la merde. Non,
c'était un peu plus star.
Non, c'était de la merde. Je sais que tu travailles avec ces gens-là, mais c'était de la merde. Moi, je suis désolé, mais je te le dis. No offense, c'est nul à chier. Voilà.
T'as un très bon album,
de Pokora.
Je conseille juste une photo de toi. À écouter sans modération sur les plateformes de streaming. Donc, en 2000, on va revenir à
Lil Kim.
À Lil Kim, ouais. Et donc, en 2017, donc, voilà, c'est une période vraiment de sécheresse, quoi. Elle n'a rien sorti de 2006 à 2017. Elle annonce qu'elle travaille sur un nouvel album. Et là, c'est drôle parce qu'elle annonce en 2017 qu'il va sortir en 2019.
Alors, ça tombe bien parce qu'on est dedans.
Oui, voilà.
On peut même dire qu'on est plutôt bien avancé.
Et donc,
il y a quelque chose qui est sorti.
Oui, là, le mois dernier, figure-toi, il y a eu le cinquième album qui s'appelle Nine.
Alors pourquoi il s'appelle Nine si c'est le cinquième?
Alors ça, je sais pas. Attends, parce que j'ai cherché. Je me suis dit, Nine. Bien sûr, j'ai cherché. Et elle dit, ce chiffre a beaucoup de signification pour moi.
Ok.
Voilà. Mais elle donne pas d'explication plus que ça, tu vois. Alors, je crois qu'octobre, c'est le 9e mois ou pas? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août.
Moi, c'est le dixième.
Dixième? Bon.
Il a vraiment compté sur ses doigts. Hein. Vous le voyez pas, mais il a compté sur ses doigts.
On m'avait appris un truc comme ça.
Ouais, avec les phalanges, là, pour les mois à 30 jours.
Et, non, même pas, tu vois, même pas. En fait, 2000, non. Bref, il va sortir, il va s'appeler Nine. sur un obscur label qui s'appelle E1 Music.
Alors, quand il y a I dans le nom de ton label, quand ça commence par I, c'est jamais bon signe.
C'est-à-dire déjà, tu vas pas rater.
C'est-à-dire que c'est un label, déjà, bon, bah, de base, t'auras pas d'album pressé, puisque ça va être un truc 100% digital.
Exactement, ouais. Exactement, donc elle va sortir avec ce single.
Oh. On dirait Scott Storch. On dirait une instru que j'ai fait moi-même pour tester mon clavier. Ah, avec les petits charlets de moine trappiste là.
Alors ce morceau, bien sûr, vous l'entendez, c'est tout ce qu'il faut pas faire. mais je voulais le
attends,
mettre.
Attends. Elle rappe quand même ou pas?
Oui, après elle arrive.
Ouais. Là, j'imagine que c'est encore le refrain. Ça, c'est pas le couplet.
Attends, non, ça, attends, c'est, je pense que oui, ça, c'est le.
Oh.
Bah, disons que de Lil Kim, on attend pas ça, quoi. On attend pas ça.
Non, mais d'un jeune âge, j'attends ça de personne.
Tu veux dire, elle a 46 ans, 47 ans, là. C'est. Fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Elle a sorti cet album, bon, elle avait promis en 2017, hein. Donc bon.
Bah, 2 ans pour faire ça, tu te dis.
Et c'est sorti le mois dernier. Donc,
okay, donc elle a vraiment sorti.
Ah, elle a sorti. Alors, tu me disais que t'avais vu la pochette.
Ouais, bah oui, du coup, elle ressemble à un deltaplane, là, je pense.
Je pense que si c'est pas marqué Lil Kim, tu sais pas que c'est Lil Kim. C'est.
Bah si, justement,
elle a tellement
parce que,
changé.
Elle
a créé un style, maintenant.
Y a pas 18 iguanodons qui rappent. Ouais, donc ouais. Ça peut être qu'elle. Ouais, tu vois, ouais. Mais ouais, c'est, bon, y a rien qui va. Alors, mais justement, j'en parlais dans l'épisode Mobb Deep.
Ouais.
Parce qu'elle a fait un live, là, où elle rappe, elle reprend son couplet de Quiet Storm,
ouais,
avec lequel on a démarré l'émission.
Ouais, exactement, c'est en Australie, je crois, ça.
Voilà.
Ouais,
donc, elle a encore le feu, hein.
Ouais, bien sûr. Non, mais attends. Mais complètement, mais c'est,
Non, parce que là, tu vois, on l'entend sur son go off, là, avec 64 effets, de l'autotune et tout, tu vois, ouais, bon, peut-être qu'elle a plus le mojo.
Peut-être.
Mais en fait, elle kick encore.
Bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est une catastrophe, ça va même pas rentrer dans le top 200, je crois que les chiffres sont complètement nuls, tout le monde s'en fout, tout le monde est passé à autre chose. Et c'est la réalité de Lil Kim, c'est que, encore une fois, elle a surperformé, elle a vendu des millions d'albums, c'était la reine, c'était vraiment, vraiment Lil Kim, c'était la numéro un, elle représentait le rap féminin existait. Parce qu'il y avait Lil Kim.
Le bon rap féminin.
Ouais, tu vois, c'était fort, quoi. Fort. Et aujourd'hui, en 2019, elle se retrouve à sortir des trucs obscurs comme
mais
ça.
C'est chelou, parce qu'en plus, on est vachement, justement, dans une phase d'empowerment, de féminisme et tout.
Mais aujourd'hui, c'est Cardi B, ça a été Nicki Minaj.
Ouais, Nicki Minaj, Cardi B.
Et Cardi B maintenant, tu vois, c'est,
Ouais, mais moi, tu vois, autant, elle est marrante, Cardi B.
Oui,
elle est
marrante.
Elle fait gaulerie.
Ouais.
Mais je pense que Kim, elle la graille.
Oui, mais.
Au est-ce micro, que... je veux dire, performance-wise.
Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en branle.
Tout le monde s'en fout, tu vois. Tout le monde s'en fout vraiment aujourd'hui.
C'est la faute des auditeurs. Vous qui nous écoutez, vous êtes quand même de sacrés ingrats. Hein. Des sacrés ingrats de merde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se saignent aux 400, hein, aux 4 veines, je sais plus, pour sortir de la musique et tout. Et vous, vous achetez pas.
Ouais.
Vous préférez écouter Cardi B, vous préférez écouter vos rappeuses flinguer du boule là avec une assistance respiratoire là tellement elles sont nulles. Ah putain, ça me. Ah non, moi je suis choqué déçu, tu vois. Plus déçu que choqué d'ailleurs. Parce que du coup là, bon, bah, déjà, E1 Music. C'est-à-dire que même Colombien, ils ont fait, ouh, putain, c'est chaud. On va rester loin de ce bourbier-là, parce que ça va être encore un truc invendable. Il va nous rester des stocks de CD, on saura pas quoi foutre avec. Donc, oula, ne répondons pas au téléphone. Donc, la meuf, elle est chez E1.
Ouais.
Là, je pense que.
Le respect de sortir l'album, pour
donc, déjà, tu vois, elle promet,
ouais.
Elle fait.
Ouais.
Tu te dis, ouah, 2 ans d'attente, ça va être du méga lourd. Finalement, c'est du lourd tout court. donc là, on peut se dire raisonnablement que Lil Kim, là.
Je pense que c'est fini.
Sauf si, attends, parce que du coup, son premier album, il est sorti en 96.
Oui, bah là, on a même passé les 20 ans, les anniversaires, tout ça, il y a même plus ça pour la
sauver. Ça viendra pour les 30.
Ouais. Ouais, voilà, peut-être, ouais. Certainement.
En 2026.
Elle fait toujours des shows. Elle est toujours invitée sur les plateaux télé. Elle fait toujours. Il y avait une émission soit à Obama, soit à Hawaii, je sais plus, où elle était invitée aussi.
Genre c'était le dauphin, non parce que... ah, on avait dit pas le physique.
Non, elle est populaire encore, Lil Kim. Hein. Elle fait encore des plateaux télé. Je pense qu'elle doit toujours tourner aux États-Unis pour chanter ses tubes.
Oui,
quoi,
pour chanter ses tubes.
Donc elle aura toujours un moyen d'exister. Mais d'un point de vue artistique et de nouveauté artistique, il n'y a plus rien à attendre de Lil Kim.
De toute façon, là, si je regarde, donc on est à l'émission, on a dit combien, la 5?
La 5e, ouais.
On choquait quand même des gens qui ont eu leur golden era aux alentours de la fin 90, début 2000. Est-ce qu'il y a vraiment un artiste qui a réussi à sortir là, en disant, il a toujours le mojo?
Ouais, bah, comme on disait, Snoop et Jay-Z, quoi.
Ouais. Mais eux, on n'a pas fait d'émission sur eux.
Non, bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'on parle de cette période où c'était vraiment, ça montait super haut, super vite. Mais la descente, elle est vertigineuse.
Bah, j'ai envie de te dire, ça n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, avec les rappeurs de SoundCloud, tu vois, les mecs...
Je pense que ça va encore plus vite aujourd'hui.
Ça va ultra vite.
Plus vite aujourd'hui.
C'est-à-dire que le mec Overnight, c'est une célébrité. Deux jours après, il fait une overdose c'est quoi qu'ils prennent là? C'est même pas des oxycodones de Xanax.
Tu vois, Lil Pump, Lil Peep, Lil Machin là.
Mais
c'est souvent des mélanges en plus, hein. Je pense que.
Ouais.
S'ils aiment bien dire médicaments, enfin, tu vois, t'as toujours de dire overdose de médicaments, j'entends toujours ça, tu vois.
Ouais, overdose médicamenteuse.
Ouais, c'est vrai, bon.
Non, mais voilà, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, les mecs montent très très vite, mais ils repartent aussi vite qu'ils sont nus, donc finalement, ça va pas trop changer, c'est même accéléré.
Non, ça s'est même accéléré, t'as raison, ça s'est
donc, Lil Kim, elle a une notoriété.
Ouais.
Mais rien qui lui permettra de relier, tu vois, la notion de bref.
Ouais. Enfin, en fait, elle va rien ajouter à sa discographie, quoi. Ça, c'est clair. Sa carrière artistique va s'arrêter. Elle va vivre sur son passé, sur ses tubes. Et puis elle va avoir une belle vie, hein. On lui souhaite, en tout cas. Elle nous a fait kiffer, quoi.
C'est comme Emile et Images, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, tu vois. Et c'est donc la fin de l'émission.
Ah, putain, on termine là-dessus. On termine là-dessus. Je souhaite que Lil Kim puisse continuer en fait à chanter ses démons de minuit à elle,
voilà.
Qui sont évidemment toute la période Bad Boy Biggie.
Complètement.
Et puis moi ça me ferait plaisir qu'elle sorte un truc et qu'on dise ah putain elle tient toujours le manche, tu vois, parce que je sais que la meuf elle est talentueuse, donc
bien sûr, mais complètement.
Faut juste qu'elle trouve un producteur.
Puis aussi l'âge, hein, tu vois, elle va arriver sur 50.
Ouais, mais moi je te le dis, j'en ai marre qu'on considère que le hip-hop c'est une musique de jeunes.
Ah non, mais complètement, mais je veux dire, tu peux avoir une fatigue.
Pas de fatigue. Au pire tu fais du jazz. Ok,
oui.
Mais tu continues à faire quelque chose.
Ah, mais écoute, l'album de jazz de Lil Kim.
Bah attends, pourquoi pas? Oxmo Puccino l'a fait.
Bah pourquoi? Mais franchement, tu sais que c'est un virage,
Franchement,
que les artistes.
Parce que là, elle a essayé de faire un truc un peu trap, tu vois, rap moderne, Migos et compagnie. Bon, clairement, ça marche pas.
Tu
sais quoi, fais autre chose.
Bien sûr.
Reviens, fais du boom bap.
Voilà. Mais vraiment, bien sûr, mais complètement.
Écoute-nous, Kim. Franchement, refais du boom bap, meuf. On sera là.
Appelle-nous.
Voilà. Si t'as besoin d'un deal, appelle-nous. On connaît bien les mecs de chez Columbia.
Voilà.
Allez, on va s'arrêter là. Du coup, voilà pour la carrière de Lil Kim, mais qui mérite quand même qu'on écoute un peu ce qu'elle a fait. Donc, on vous mettra pareil la playlist sur YouTube. Je sais qu'il y a quelqu'un, je n'ai pas ton nom malheureusement, je te prie de m'en excuser, mais qui compile les morceaux sur Spotify, qui nous l'a dit aujourd'hui sur Twitter.
Big up
à toi. Non, je sais vraiment pas qui t'es. C'est dommage. Parce que si j'avais le temps, je te retrouverais pour te dédicacer. Et tu sais quoi? On va prendre le temps.
Je peux déjà annoncer, si tu veux, l'artiste. Sélectionné parce qu'il y a une recherche, donc c'est de parents, de voir à qui en liaison de ça. Pour la prochaine émission d'âge, j'aimerais bien, parce que j'ai bien aimé la petite escapade à Atlanta.
Aha.
J'aimerais bien qu'on y retourne.
Oula, attends. À Atlanta, il n'y a que deux personnes. Enfin trois. Il y a cinq personnes.
Ouais.
On en a fait une.
Ouais.
Ok, il y a six personnes. On en a fait une. Il reste un groupe de deux.
Ouais.
Et un groupe de trois.
Et il y a aussi une personne.
Oh.
Avec des gros des cheveux, très chevelus.
Oh non!
Ah si.
Oh non.
Ah si.
Ok.
On va faire Ludacris.
Ah, je pensais pas à lui.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, je m'attendais à Lil Jon, tu vois.
Ah non.
Mais Lil Jon, il est d'Atlanta, je suis même pas sûr, en fait.
Je sais pas non plus.
Bah, il est du Sud.
Non.
On va faire Ludacris.
Oui,
ah, Luda, ok. Luda
ça voilà. Et ça va être un super épisode aussi, parce qu'il y a une carrière de malade. Et pour quand on parle de kicker, c'est un kicker. Lui aussi.
Ah, ça y est, j'ai retrouvé le mec. C'est Kevin Gautreau. Kevin Gautreau, donc Kagot sur Twitter, qui nous dit qu'il a commencé une playlist Spotify avec les références de chaque épisode. Alors Kevin, merci à toi, Kevin. Les calculs sont bons, Kevin. Bravo. Merci à toi. Est-ce qu'on termine cette émission comme ça, de manière abrupte? Eh bien non, car je vais quand même dire que vous pouvez retrouver l'émission sur Spotify désormais,
c'est
en plus des playlists de Kevin. Merci à toi, Kevin. que vous pouvez bien sûr discuter avec nous sur Twitter comme l'a fait Kevin. Bravo Kevin, merci
bravo,
à toi.
Bravo.
Mais également sur le forum de qualité, forum.dequalité.com pour discuter de nos émissions.
N'hésitez pas, nous, d'ailleurs, si vous avez des avec réflexions, Kevin. Des idées, d'ailleurs, des, oui, des si commentaires, avez, des précisions.
Si vous avez, par exemple, on peut faire ce point-là, parce que dans le monde du podcast, il y a des gens, au bout d'un moment, l'éditorial, ça les emmerde, alors ils disent aux gens, si vous savez de quoi on doit parler la semaine prochaine, vous pouvez nous dire. Nous, on va vous dire, faites pas ça, parce que de toute façon, on s'en bat les couilles. Voilà. Merci pour tout.
On a une ligne qui est...
Nous, c'est tracé, donc c'est bon, vous inquiétez pas besoin de vos conseils, on sait exactement où on va.
Mettez-vous bien.
Donnez au Patreon, oubliez pas, parce que c'est super cool si vous pouvez donner au Patreon. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais du coup, vous brisez le cœur d'un fibre tigre. Et nous, on se retrouve dans 15 jours.
Allez,
salut
ciao.
À tous, ciao.
Welcome to the show, Six and Dash Hip Hop Show, bringing you the best, bringing you the best in hip hop.
DJ, turn it up.
Oh yeah.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.